Ces paraboles de noces que nous trouvons dans l'Évangile sont une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'elles nous décrivent le royaume de Dieu comme un banquet, comme une fête, une joie, comme un endroit où on est heureux et où on s'amuse. Quand je dis royaume de Dieu, il faut d'abord prendre garde. Il ne s'agit pas seulement de l'image de ce qui nous attend après la mort ou d'un éventuel paradis, mais le royaume de Dieu dans l'Évangile, c'est aussi ce que nous pouvons vivre dans la foi, c'est-à-dire lorsque nous avons cette présence de Dieu avec nous et lorsque nous vivons dans l'idée que Dieu, notre Père, est notre Roi et que nous sommes chez lui, en quelque sorte. Et donc ce royaume de Dieu, qu'il soit dans le ciel ou sur terre, me plaît parce que ce n'est pas l'image que nous en avons habituellement. En tout cas, ce banquet, c'est nettement mieux déjà que le paradis où les gens s'ennuient assis sur des nuages. C'est mieux aussi sur terre que la Genève de Calvin, où on ne s'amusait pas beaucoup, mais certes on était fidèle et droit, mais où on avait le droit ni de danser, ni de s'amuser, ni de boire. On est là dans autre chose, dans une vraie joie. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Cela dit, ces deux textes des festins de l'Évangile posent énormément de questions et soulèvent de gros problèmes. La principale question, c'est cette promesse d'une joie dans la présence de Dieu. Mettons ici sur terre, parce que pour tout vous dire, ce qui se passera après la mort, je m'en fiche un peu. Cette bonne nouvelle, elle est pour qui et elle est pour quoi? Si l'on considère l'après-monde, le salut, comme on dit, le salut éternel, vous remarquerez déjà que ça n'est pas conforme à ce que l'on prêche d'habitude, c'est-à-dire que dans ce banquet, tout le monde n'est pas présent. Et il y a donc, dit-il, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, il y en a qui n'en profitent pas. Ça, ce n'est pas vraiment la bonne nouvelle. Ce n'est en tout cas pas tout à fait ce que nous aimons entendre aujourd'hui, mais ça montre en tout cas que nous ne sommes pas dans une sorte d'universalisme béat, où finalement Dieu accueillerait tout le monde à bras ouverts en disant « Allez, venez, puis je prends tout le monde, même les mauvais, les pécheurs, les indignes, les misérables, et on sauve tout le monde dans une sorte d'indifférence généralisée. » Il y a certains qui seront en banquet et d'autres qui n'y seront pas. Alors certes, me direz-vous, ceux qui n'y sont pas, ce sont ceux qui refusent. Je suis d'accord et je suis prêt à avoir ce genre de théologie. Dieu n'impose pas son salut, il le propose, et puis certains n'en veulent pas, que celui-là je vous dise, moi, ça les regarde. Mais cela dit, la question ne s'arrête pas là, parce que la parabole nous montre quand même que Dieu n'invite pas tout le monde à la foi. Il y en a qui sont invités d'abord, et là, c'est nettement plus difficile à justifier. Pourquoi Dieu n'invite-t-il pas tout le monde à la foi? Qui sont ces privilégiés qui reçoivent l'appel en premier? Si j'étais purement calviniste, je dirais que cela ne nous regarde pas, c'est le choix de Dieu, et Dieu choisit dans sa libre prédestination d'en appeler certains et de ne pas en appeler d'autres. D'autres ont voulu dire que ça concerne les Juifs, mais je n'aime pas cette lecture historique de la parabole. J'aime mieux penser que ces paraboles nous concernent, nous, aujourd'hui et maintenant. La solution que je propose, c'est en fait de ne pas chercher trop loin. Si vous faites des noces pour votre fils ou votre fille, qui inviterez-vous d'abord? Je dirais, a priori, vos amis, vos plus proches, ceux qui, a priori, sont les membres de votre premier cercle. Et donc je dirais que là, je ne pense pas que Dieu invite d'abord les uns et ensuite les autres. Mais je pense que dans notre idée à nous, nous pensons en fait que Dieu, a priori, invite d'abord ses amis, les bons croyants, les bons chrétiens, les fidèles, les bons pratiquants. Et donc nous pensons que, en fait, c'est ceux qui, a priori, se considèrent comme les amis de Dieu, devraient être les premiers à entrer dans le paradis. Et comme je vous le disais, m'intéressant plutôt à ce que l'on vit ici-bas sur terre, je dirais que les premiers qui devraient être capables de bénéficier de ce que Dieu offre dans une vie, comme source de joie, de fête, de bien-être extraordinaire, les premiers qui devraient vivre de toutes ces grâces de Dieu, ce devraient être les pratiquants, les amis de Dieu, ce qu'on appelle les croyants, les chrétiens. C'est ceux-là qui devraient en premier bénéficier de cela. Et c'est vrai que ce sont les premiers à entendre l'appel, puisque vous, vous êtes là et vous entendez mon appel. Venez, tout est prêt, le Seigneur vous invite. C'est vous qui entendez en premier. Ceux qui sont loin, ceux qui souffrent là-bas dans les fossés, sur le bord des rues, ceux qui ne sont pas à l'église, ils n'entendent pas en premier cet appel. Mais là, il y a justement un retournement incroyable, c'est que la parabole, d'abord, nous dit bien que finalement, je crois que tout le monde sera appelé. Et en tout cas, cette bonne nouvelle, elle sera finalement offerte à tous, même si certains y ont accès plus facilement que d'autres. Néanmoins, Dieu n'exclut lui-même personne. Et donc, on voit que finalement, c'est plus compliqué qu'on ne pense. Certes, ce devraient être les bons croyants qui devraient vivre le mieux de la grâce de Dieu. Mais en fait, on découvre que ce ne sont pas forcément eux qui bénéficient le plus de la grandeur de l'œuvre de la présence de Dieu dans une vie. Parce que sans doute, avoir une vie trop facile, parfois, nous empêche d'entendre la bonne nouvelle et nous prive de la vraie joie. Il est vrai que les premiers invités ne semblent pas être dans la misère. Il a acheté un champ, très bien, vous achetez souvent des biens immobiliers, bon, tant mieux pour vous. L'autre a acheté 5 paires de bœufs, je ne sais pas quel était le niveau de vie de l'époque, mais c'est quand même considérable. Et le troisième vient de marier son fils ou sa fille, ou vient de se marier lui-même. Bon, ça va, tout roule, tout marche bien. Ce sont tous des gens aisés qui ont... Et finalement, ce sont ces gens aisés qui ont le contact le plus évident avec Dieu, parce que tous ces gens qui ont la vie facile connaissent une paroisse, connaissent un pasteur, ont des Bibles chez eux, et tous ces gens-là, ils ont tout à portée de main. Mais malheureusement, l'on voit que, et c'est vrai encore aujourd'hui, que beaucoup de ces chrétiens traditionnels, eh bien souvent, sont les premiers à cracher dans la soupe, je dirais, sont les premiers à critiquer l'Église, critiquer les pasteurs, à dévaloriser la foi. Et on voit que ceux qui découvrent l'Évangile, ceux qui en étaient éloignés, ceux qui découvrent l'Évangile, le font avec un enthousiasme extraordinaire, qui change leur vie. Et nous avons tous des témoignages de cela. Et moi-même, je me souviens une fois, j'ai ici célébré un service funèbre. Et ce coup-ci, ce n'était pas pour un banquier ou pour l'héritier d'une grande marque protestante, un service funèbre pour un SDF. Il s'appelait Bernard, je n'ai jamais su son nom de famille. Dieu le sait. Et il y avait plus de monde que là, qu'aujourd'hui. Et cet homme, qui n'avait pas été élevé dans les bons catéchismes de l'Étoile, il a découvert la présence de Dieu dans sa vie. Et ça a changé sa vie. Ça a illuminé sa vie. Et certainement plus que ça n'a changé la mienne ou que ça n'a changé la vôtre. Cet homme était devenu l'homme le plus riche de la planète. Et les témoignages que j'ai entendus à ce moment-là, c'était pas uniquement de dire « Oh Bernard, tu étais un type sympathique, on t'aimait bien, tu vas nous manquer, etc. » C'était des témoignages de gens dont la vie avait été transformée par cette bonne nouvelle de l'Évangile. Transformée par cette annonce justement de Dieu qui dit « Il y a chez moi, dans ma présence, une vraie fête, une joie, un bonheur, une exaltation extraordinaire à laquelle vous êtes invités. » Qui aujourd'hui peut en dire autant? Alors pourquoi avons-nous, nous, tant de mal à découvrir cette bonne nouvelle? Pour plusieurs raisons, je crois. D'abord parce que le Christ nous a prévenus, nul n'est prophète en son pays. Et je pense que souvent, ceux qui se croient les plus amis de Dieu cessent de découvrir la grandeur qu'il y a en lui. Et donc, il y a un danger à être trop proche de Dieu. Dieu est mon ami, il est toujours là, je le sais, c'est mon compagnon. Mais mon ami, c'est pas mon sauveur. Mon ami, c'est pas celui qui me sauve la vie, qui me transforme. C'est un camarade agréable, sympathique, qui en plus a la bonté de ne pas trop me contrarier. Et donc, nul n'est prophète en son pays, et on a du mal à reconnaître dans son familier, dans son ami, dans son copain de classe, même dans ses enfants ou dans ses parents, de reconnaître un être unique, extraordinaire, d'une puissance infinie. Alors, on rabaisse cet ami qui est Dieu. Et comme je vous le disais, ceux qui découvrent Dieu découvrent quel être extraordinaire il est, et nous connaissons tous l'enthousiasme de ces nouveaux convertis que nous aimons entendre, parce qu'ils peuvent dire ce qu'il y a d'extraordinaire là. Et donc Dieu est notre ami, et finalement nous gardons Dieu comme ami, mais nous avons la facilité de chercher d'autres maîtres. Or Dieu n'est pas simplement notre ami, il est aussi notre maître, et notre Seigneur, notre Roi. Faute de quoi, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, vous êtes juste, je dirais, dans une petite bouffe sympa entre copains. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, on a du mal à découvrir cette bonne nouvelle, soit parce qu'on croit trop bien la connaître, soit parce que, comme ces bons amis, nous avons trop de chance, ou plutôt nous avons l'impression de tout avoir. Et donc c'est vrai que la plupart d'entre nous ne manquons de rien, nous avons des chances, des plaisirs, et nous nous en contentons. Et on peut dire que la bonne nouvelle de ce royaume, est-ce qu'elle peut toucher quelqu'un qui dit « c'est bon, moi, ma vie terrestre me remplit de joie et d'enthousiasme ?» Ça n'est pas évident. On a souvent expliqué que c'était pour ça qu'il y avait si peu de jeunes dans les églises. Parce que nous dit-on, les jeunes, ils ont tout, ils ont la santé, ils sont amoureux, ils ont des projets, ils font des vacances extraordinaires, donc ils sont dans la joie. Et pourquoi leur proposer une joie d'un autre ordre, plus difficile à saisir et à comprendre? Ils n'en ont pas besoin. Mais en fait, je crois que c'est plus compliqué que ça. Parce que je ne crois pas qu'on puisse faire deux catégories. Les jeunes qui ont toutes les chances et qui sont insouciants, les riches qui ont toutes les chances terrestres et qui n'ont pas besoin d'une bonne nouvelle d'un autre ordre, comme si la bonne nouvelle n'était réservée qu'aux SDF, aux malades, aux pauvres, aux désespérés. On ne peut pas faire ça, parce que vous le savez très bien, la jeunesse peut aussi être un moment d'une extrême difficulté, et vous le savez très bien, la tranche d'âge la plus frappée par le suicide, ce sont les jeunes. Et vous le savez aussi que la catégorie sociale la plus frappée par le suicide, la plus consommatrice de médicaments antidépresseurs, de psychiatres et autres choses, ce sont les stars que nous adorons et que nous admirons. Ce sont ceux qui ont la vie la plus aisée. Et donc finalement, on voit bien qu'on ne peut pas dire qu'il y ait d'un côté ceux qui ont des chances et qui n'ont aucun problème et donc qui sont imperméables à la bonne nouvelle, et ceux qui seraient dans des problèmes et qui donc chercheraient ailleurs une sorte de compensation. Les choses ne se passent pas comme ça. Et il y a dans toutes les catégories des aveugles, des blessés, des estropiés, des paralysés, des gens qui ont besoin effectivement d'une bonne nouvelle. Le problème, c'est d'avoir conscience de ce manque. Le problème, c'est de savoir qu'en fait, on a besoin de quelque chose d'autre. Et l'Apocalypse nous le dit d'ailleurs dans un verset qui, pour moi, est d'une, je dirais, d'une clarté, d'une force inégalable. Quand il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je te conseille d'aller vers moi pour acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, vraiment, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu voies. » Et donc voilà la question, je crois, dans l'Évangile, et ce texte nous permet de la résoudre. Ce n'est pas d'être riche ou pauvre. La question, ce n'est pas que Jésus condamnerait les riches, et dirait que le royaume de Dieu est pour les pauvres. La question, c'est plutôt pour nous de savoir où nous mettons nos priorités et de savoir sur quoi nous comptons. Le vrai pauvre, il n'a pas le choix. Mais le riche, ou le jeune, ou celui qui a que des chances, il a plus de danger de vouloir mettre sa confiance sur des choses qui ne sont pas essentielles et plus de danger de s'exclure eux-mêmes. Et donc, ces gens qui ont des chances matérielles, ce n'est pas que Jésus les exclut, c'est eux qui risquent le plus de s'exclure eux-mêmes. Et l'essentiel pour accueillir cette joie du royaume, c'est de se savoir infirme, de savoir que nous manquons de quelque chose, de se reconnaître infirme, de ne pas se mentir à soi-même, de connaître ses faiblesses et d'avoir l'humilité de demander à Dieu de l'aide. Heureux les infirmes, oui, parce que ce sont eux qui peuvent entendre la bonne nouvelle du Christ qui lui dit « Lève-toi et marche ». Et heureux ceux qui savent se reconnaître infirmes. Heureux les pauvres, oui, parce que les riches ou ceux qui mettent leur confiance dans les chances matérielles, ils ne peuvent attendre que des mauvaises nouvelles. Heureux ceux qui pleurent. Oui, disent les Béatitudes, parce que ce sont ceux qui pleurent qui peuvent être consolés. Ceux qui masquent leur tristesse, leur désespoir, leur doute, on ne peut même pas les consoler. Pas de bonnes nouvelles pour eux. Ils sont imperméables à toute bonne nouvelle. Un banquet, une invitation à un bon repas, ça n'est une bonne nouvelle que pour celui qui a faim. Si vous arrivez au meilleur repas du monde en vous étant goinfré avant de pâtisserie, vous n'en profiterez pas. Et donc la source du bonheur, et je crois que c'est vrai, c'est d'avoir faim, c'est de désirer. La source du bonheur, c'est de vouloir être invité et de savoir qu'il y a en nous un manque, un creux. Celui qui peut recevoir, c'est celui qui a de la place pour prendre dans ses mains. Celui qui a les mains chargées ne reçoit rien. Et donc là, la parabole nous montre que ceux qui finalement bénéficieront du banquet, ce sont tous ceux qui diront « Oui Seigneur, j'ai faim ». Voilà, c'est tout. Et bons et mauvais, ça c'est incroyablement révolutionnaire. Va chercher tout le monde, bons et mauvais. La qualité morale n'est plus un critère. Qui oserait dire ça ? Qui oserait dire ça ? Même pas Calvin ou Luther ou qui que ce soit, où toujours on dit « il faut être bon, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut être pratiquant, il faut... » Va chercher tout le monde, bons et mauvais. Bons et mauvais. Ce qui compte, c'est finalement une chose, c'est la disponibilité. La disponibilité, voilà. C'est peut-être ça le vrai critère du salut. La disponibilité. L'ouverture à Dieu, l'ouverture à l'autre, être capable d'entendre une invitation. La disponibilité, être capable dans sa vie, un jour ou l'autre, de changer ses projets, de changer ses plans et de dire « oui, là, j'avais prévu ça, mais il y a quelque chose qui m'appelle là, de plus important ». Être disponible à l'appel de l'autre, « tu me demandes de t'aider, j'avais prévu autre chose, mais je suis disponible ». Heureux celui qui est disponible. C'est ça la vraie qualité. Contre l'égocentrisme de celui qui ne choisit qu'à partir de lui-même, qu'à partir de ses plans, de ce qu'il a prévu, projeté. Ça, c'est le danger infini des projets, de ceux qui projettent, qui planifient. Le salut, c'est pour celui qui est là, comme les serviteurs dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, celui qui est là sur la place et qui attend qu'on l'appelle. Ce qui compte, entendre un appel et savoir que Dieu nous adresse une vocation. Et une vocation, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux bonnes sœurs et aux pompiers. La vocation, c'est pour nous tous. Dieu nous appelle à quelque chose, à servir, à quelque chose que j'ignore parce que Dieu appelle chacun à sa manière. Entendez-vous cet appel ? Ou avez-vous une voiture à essayer ? Une maison à visiter ? Ou une fête pour votre propre mariage ? Entendez-vous cet appel qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est là auquel vous êtes invité. Le royaume de Dieu, c'est à la fois donc exigeant, je vous le disais, et en même temps, une chose étonnante, c'est que ce n'est pas à nous de faire la soupe. Venez, car tout est prêt, dit le maître. Ce n'est donc pas notre mérite, notre intelligence, Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert en progressant dans la prière, dans la connaissance de la parole ou d'autres choses. C'est simplement venez car tout est prêt. Dieu se charge de tout. Il a tout prévu, de l'entrée jusqu'au dessert et au café, tout est prêt. Tout est prêt. Et donc ne vous désespérez pas, ni de l'état du monde en vous disant « Où va le monde, ma pauvre dame, le royaume de Dieu s'éloigne ?» Venez car tout est prêt. Ce n'est pas à l'homme de créer le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu, vous y êtes invité. Il est là quand vous voulez. Et même dans ma vie, ce n'est pas par ma progression personnelle que j'accéderai au royaume de Dieu. Tout le monde y est invité. Même les boiteux, les blessés de la vie peuvent avoir part au bonheur incroyable de découvrir la joie profonde de la présence de Dieu. Et ça, pas seulement dans l'autre monde, même ici-bas. Quant aux serviteurs, eh bien, ils n'ont qu'un rôle, c'est de dire « Vous êtes appelés ». C'est mon rôle à moi, serviteur, et c'est votre rôle à chacun, tous serviteurs, de dire « Vous êtes appelés, il y a là une bonne nouvelle incroyable, et on peut y entrer gratuitement ». Ce qui pose problème dans la version de Luc, c'est le maître qui dit au serviteur « Va dans les places, dans le bord des haies, sur les chemins, croisés des chemins, tu trouves tous ceux qui sont là, bons et mauvais, estropiés, aveugles, etc. Contrains-les d'entrer. » Ce « contrains-les d'entrer », une des choses les plus dramatiques de l'Évangile et qui a légitimé tant d'intolérance, saint Augustin a légitimé cela, légitimait à cause de cela les violences physiques que l'on peut faire à des idolâtres en les forçant à abjurer, en les forçant à confesser leur foi ou à assister à un office. Et plus tard, l'Inquisition disait, par la violence, je contrains les gens d'entrer, même s'ils ne veulent pas, ils y entrent, et là, ils découvriront bien qu'il y a quelque chose. Quelle horreur! Heureusement, un des premiers à s'être opposé à cela, c'est Pierre Bayle, fils de pasteur, auteur de la première encyclopédie, et qui a bien montré que c'était absolument incompatible avec l'ensemble de l'Évangile. Le mot utilisé là, « contrains-les d'entrer », j'ai regardé dans tout le Nouveau Testament, et il ne désigne pas ou jamais une contrainte d'ordre physique, bien sûr, mais plutôt une sorte de contrainte d'ordre intellectuel, si l'on veut. C'est-à-dire, persuade-les d'entrer. Montre-leur qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est ce que dit Paul, par exemple, dans les Actes, quand il dit qu'il aurait bien voulu faire autrement, mais il dit « les Juifs s'opposèrent à ce qu'il avait prévu, et j'ai donc été contraint d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. » Paul n'a jamais été contraint physiquement de faire ce qu'il avait à faire, mais il a été acculé, il a compris que c'était pour lui la seule solution. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était la seule issue. Et peut-être que c'est ça que nous devons comprendre. C'est qu'il n'y a pas d'autre issue pour nous que d'aller trouver le bonheur, l'accomplissement de notre vie dans le royaume du Père, dans cette fête qu'il nous offre, dans la communion avec nos frères et sœurs en sa présence, et que d'aller banqueter avec lui dans le banquet de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre issue possible pour l'accomplissement de votre vie, pour le bonheur de votre existence, pour votre équilibre, pour votre joie profonde. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ça que je veux vous montrer. Et c'est ça que les serviteurs essayent de nous faire comprendre. Cela dit, il n'y a pas de contrainte, évidemment. Personne ne force personne à aller nulle part. Personne ne contraint qui que ce soit à entrer dans le banquet par la force des armes. Et à un moment donné, il faut bien que chacun dise « oui ». Tant qu'on n'accepte pas, on n'y va pas. Et là, cette parabole nous montre un autre aspect très critiqué, enfin, qui nous éloigne encore une fois de la théologie de Calvin. Pour Calvin, Dieu prend les gens de force, il ne leur demande même pas leur avis, « toi t'es sauvé, toi tu ne l'es pas ». Et Calvin s'opposait à un dénommé Arminius, un autre réformateur, qui me plaît mieux que Calvin sur ce point, Arminius défendait ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire que l'homme doit coopérer à l'œuvre de son salut. Et à un moment, l'homme doit dire oui, il doit adhérer. Tant qu'il n'adhère pas, le salut glisse sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Dieu ne va pas prendre les gens de force pour les sauver contre leur gré. Et donc je crois qu'effectivement c'est une parabole de la synergie. Dieu nous offre, il nous invite, il nous appelle, venez, tout est prêt. Voilà, Dieu a fait ce qu'il pouvait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant ça ne dépend plus que de vous et de moi, de nous, chacun, c'est tout. C'est tout, c'est la synergie. Et donc nous n'avons qu'à dire oui. Et quand nous y sommes, là se pose l'autre problème très intéressant dans Matthieu, de celui qui est présent, le maître voit, il n'a pas le vêtement de noces, il dit « qu'est-ce que tu fous là toi ?» Réponds pas, fiche dehors. Ça c'est étonnant ça, très étonnant. Mais en même temps je comprends, parce qu'on nous dit que ce vêtement de noces, il était offert à l'entrée, parce que les gens venaient de loin et paraît que dans l'Antiquité ça... C'était la responsabilité de celui qui invitait d'offrir des vêtements de noces à ses invités pour qu'ils soient beaux. Voilà. Et donc c'était gratuit là aussi. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris? Parce que c'était un consommateur, un profiteur. Il dit tiens, c'est bon, il y a à bouffer, c'est gratuit, j'y vais. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un banquet, on nous demande d'adhérer au système. Vous êtes bienvenus, est-ce que vous dites oui, je suis dans une noce, je suis dans une fête? Et pas simplement de vous dire « Ah oui, la prédication de la grâce, c'est commode, je peux pécher, faire n'importe quoi, Dieu me sauve. » Eh bien, si c'est ça, tu n'as pas compris. Le banquet, vous êtes bienvenus, tout est prêt. On vous demande simplement de jouer le jeu. De jouer le jeu, il n'y a pas de touriste dans la grâce. La grâce, c'est une adhésion personnelle et sincère. Après, suis-je bon, suis-je mauvais, je m'en fiche. Je n'ai qu'à revêtir l'habit de noces que Dieu m'offre. Et donc moi, je suis pas bon, je n'ai pas la foi, je ne sais pas tout. Mais j'accepte la nourriture que Dieu m'offre et j'accepte de revêtir le vêtement de la grâce, le vêtement blanc qu'il m'offre gratuitement et que je vais essayer de mettre au-dessus de ma, je dirais, de ma nature imparfaite. Parce que moi, je sais que je suis, malgré toutes les apparences, je suis pauvre, misérable, aveugle et nu. Et je sais que même si j'ai mes deux jambes, je suis peut-être plus paralytique que qui que ce soit dans une chaise roulante. Et je sais que même si moi je crois avoir une maison et un lit, je suis peut-être plus SDF et plus déraciné que d'autres qui vivent dans des conditions moins faciles. Et donc oui, la grâce, c'est un engagement. Faute de quoi, la grâce de Dieu ne serait plus une grâce, mais une lâcheté, une faiblesse, une indifférence. Il n'y a pas de ça en Dieu. Venez, nous dit le Seigneur, car tout est prêt. Dieu fait tout à merveille. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Et nous pouvons avoir confiance déjà vers la mort. Je n'ai aucune crainte de la mort. Dieu a tout prévu. Tout est prêt dans son banquet. Aucun problème. Et même ici-bas sur terre, je crois que Dieu a tout bien préparé. Et que quoi qu'il arrive dans ma vie, dans ce monde, si j'accepte de m'en remettre à lui, je crois qu'il y a toujours une table pleine offerte par lui à côté de moi. Et je crois que lui a tout préparé. Et donc que je peux avoir totale confiance dans ce qu'il m'a offert, dans ce sens qu'il prend soin de nous et qu'en lui, nous pouvons tout avoir. En lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin, par grâce. Amen.